RFI 21h, à Paris 20h, en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Un plan pour la reconstruction de Gaza adopté par les dirigeants arabes. Le plan présenté par l'Égypte inclut le maintien des Palestiniens sur leurs terres, contrairement à celui proposé par le président américain. La guerre commerciale initiée par Donald Trump franchit un nouveau palier. Des droits de douane seront appliqués aux produits mexicains, chinois et canadiens qui entrent aux États-Unis. Le Canada a immédiatement riposté. En France, dans l'affaire de Betaram, la congrégation religieuse admet sa responsabilité et indique qu'elle va indemniser les victimes de violences sexuelles au sein de cet établissement scolaire entre les années 50 et 2000. En Europe, des règles existent pour limiter la pollution liée au transport maritime, mais elles ne sont pas suffisamment mises en application. Conclusion d'un rapport de la Cour des comptes européenne. Les dirigeants arabes réunis ce mardi au Caire pour évoquer la situation à Gaza et parler d'un plan alternatif à la vision de Donald Trump pour l'avenir de l'enclave palestinienne. Un plan initié par l'Égypte de 53 milliards de dollars sur 5 ans pour reconstruire l'enclave. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a assuré qu'il devait garantir le maintien des 2 millions d'habitants sur place, à l'opposé des velléités de Donald Trump d'expulser les Gazaouis de leur terre. Sommet qui s'est tenu dans un contexte de blocage sur la suite du cessez-le-feu. Elle devait entrer en vigueur ce week-end, mais les discussions sont dans l'impasse. Israël a de nouvelles demandes que le Hamas rejette. On fait le point avec Muriel Paradon.
Il faut une démilitarisation totale de la bande de Gaza, affirme Israël par la voix de son ministre des Affaires étrangères Gideon Saar. Inacceptable pour le Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien, rendre les armes constitue selon lui une ligne rouge. Par ailleurs, les Israéliens réclament de nouvelles conditions sur les otages. Ils veulent des libérations immédiates et la prolongation de la première phase de la trêve jusqu'au 20 avril. Une proposition émanant, disent-ils, de Steve Witkoff, l'émissaire du président américain Donald Trump. Le Hamas lui refuse, il veut s'en tenir à l'accord initial. La deuxième phase prévoyait bien une libération des otages, mais selon un calendrier à définir, avec un retrait total de l'armée israélienne de Gaza et un cessez-le-feu définitif. Pour l'instant, c'est l'impasse. Israël bloque depuis dimanche l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, accusant le Hamas de la détourner. Vive réaction à travers le monde. Pour le chef de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, cette décision menace les vies de civils épuisés par 16 mois de guerre brutale.
Et l'armée israélienne annonce par ailleurs étendre son offensive à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, l'autre territoire palestinien. Ses soldats mènent une opération dans de nouvelles zones. L'armée israélienne qui dit aussi avoir tué ce matin le chef de l'organisation locale du Hamas. Cette visite éclair aux États-Unis de Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, partisan d'une annexion de la Cisjordanie, a annoncé qu'il allait rencontrer plusieurs responsables américains et notamment son homologue, le secrétaire au Trésor. Visite pour renforcer les liens et la coopération économique entre les deux pays, dit Bezalel Smotrich. Visite qui intervient alors que le président américain pourrait se prononcer dans les jours qui viennent sur la question de l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Donald Trump qui a mis sa menace à exécution depuis ce matin. Les droits de douane sur les importations en provenance du Canada et du Mexique ont augmenté de 25%. Quant à la Chine, c'est une surtaxe de 20% qui est désormais appliquée à ses produits. Le président américain estime que ces trois pays n'en font pas assez contre l'entrée de fentanyl et de migrants illégaux aux États-Unis. Marine de la Moissonnière, le Canada a immédiatement riposté.
Le Canada a lui aussi décidé d'augmenter de 25% les droits de douane sur certaines importations américaines. Pour l'heure, ne sont concernés que 20 milliards de dollars de marchandises. Mais si Donald Trump ne fait pas marche arrière d'ici 3 semaines, cette mesure de rétorsion sera étendue à d'autres produits américains pour un montant supplémentaire de 86 milliards de dollars. D'autres représailles pourraient également être annoncées. Rien ne justifiait cette décision américaine, a déclaré hier le Premier ministre ministre canadien Justin Trudeau qui a listé les efforts de son gouvernement pour lutter contre le trafic de fentanyl. Moins de 1% des saisies de cet opioïde à la frontière américaine provient du Canada, a-t-il insisté. Pas question donc pour le pays de courber les chines face aux États-Unis. Les enjeux économiques sont trop importants, les échanges transfrontaliers sont quotidiens et cette guerre commerciale naissante pourrait entraîner la fermeture de nombreuses usines au Canada, notamment dans le secteur automobile et pétrolier. Plus de 2 millions d'emplois sont en jeu.
Marine de la Moissonnière, Donald Trump a menacé le Canada de surenchère après la riposte canadienne à cette hausse de droits des douanes. Pékin a aussi répliqué ce mardi annonçant des taxes de 10 à 15% sur une série de produits agricoles en provenance des États-Unis allant du poulet au soja. Cette riposte reste toutefois un cran en dessous de l'offensive américaine qui concerne l'ensemble des produits chinois qui entrent aux États-Unis. Et puis la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a elle promis des représailles douanières et non douanières. Elle doit en préciser la teneur dimanche.
RFI, la radio du monde.
En France, dans l'affaire de Betaram, la congrégation religieuse qui a longtemps dirigé l'établissement scolaire reconnaît pour la première fois sa responsabilité. Elle promet une indemnisation des victimes d'actes sexuels commis par le personnel laïc de l'établissement, notamment les surveillants. Les victimes d'actes perpétrés par des religieux, elles, ont déjà été indemnisées. L'établissement catholique du sud-ouest de la France est au cœur d'un scandale d'abus physiques et sexuels. 150 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves qui dénoncent des actes commis entre les années 50 et les années 2000. Alain Esquer est le porte-parole d'un collectif de victimes. Il salue cette décision, mais appelle à aller plus loin.
On est vraiment très heureux que la congrégation reconnaisse cette responsabilité parce que ça va aussi permettre à tous les autres établissements de France de faire une jurisprudence Betaram qui va permettre à toutes les victimes d'être indemnisées pour les actes commis par les laïcs. Par contre, je voudrais quand même souligner qu'il y a un grand absent. C'est toutes les victimes des violences physiques, des humiliations, des tortures de type piqûres sous-cutanées qui ont été faites à des enfants. Pour le moment, la congrégation ne reconnaît pas ses victimes. Donc là encore, il va falloir individualiser la prise en charge et permettre de voir de quelle façon on peut accompagner ces personnes parce que là encore, elles ont eu des vies qui ont été abîmées.
Des propos recueillis par Baptiste Coulon en Serbie. L'opposition a perturbé ce mardi une session du Parlement. Des militants et députés de l'opposition ont allumé des fusées éclairantes et lancé des fumigènes. Trois députés ont été blessés, dont une grièvement, selon les autorités. Mobilisation qui intervient dans un contexte très tendu. La Serbie est secouée depuis des mois par un mouvement anticorruption après l'effondrement d'un auvent en béton d'une gare récemment rénovée. Les eaux maritimes européennes sont encore très largement polluées par le trafic maritime. C'est la conclusion d'un rapport de la Cour des comptes européenne publié ce mardi. Malgré un arsenal législatif bien présent, la mise en œuvre est très en retard et ne donne lieu qu'à trop peu de poursuites judiciaires envers les pollueurs, à tel point que les objectifs de l'Union européenne sont encore loin d'être atteints, Simon Rosé.
Objectif zéro pollution maritime en 2030, objectif ambitieux mais à la mesure de l'importance du sujet. Un écosystème marin en bonne santé est essentiel pour le maintien de la biodiversité, pour l'absorption du dioxyde de carbone émis par l'homme, essentiel également pour les activités économiques, au premier rang desquelles la pêche. L'Union européenne s'est ainsi dotée de lois parfois plus strictes que les règles internationales, un bon point selon les rapporteurs de la Cour des comptes, qui déplorent cependant leur trop faible application et une maigre utilisation des outils mis à la disposition des États membres. Le réseau CleanSeaNet permet par exemple de repérer rapidement les rejets d'hydrocarbures par les navires grâce aux satellites. Près de 8000 signalements en un an transmis aux pays concernés. Seule la moitié a été prise en compte et encore bien trop tardivement pour agir. De la même manière, quand ils sont attrapés, les auteurs de rejets illégaux sont peu poursuivis en justice et les sanctions ne sont pas dissuasives. Le manque de suivi est tel que l'UE ne peut pas estimer l'ampleur de la pollution. La quantité réelle des rejets illégaux est aujourd'hui inconnue. De quoi, concluent les auteurs, rendre hors de portée l'objectif zéro pollution en 2030.
Simon Rosé du service environnement de RFI.